Voilà, merci Seigneur d'être avec nous ce soir, de nous donner ta paix, d'œuvrer dans notre cœur, maintenant déjà, pour que nous puissions nous ouvrir pleinement à ta grâce, la grâce que tu veux nous donner ce soir. Grâce d'amour, de paix, de consolation, peut-être de guérison même pour certains. Seigneur, ouvre notre cœur, qui est parfois blessé, qui s'est enfermé. Ouvre ce cœur, Seigneur, par ton cœur d'amour, ton cœur blessé. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà, donc ce récit des noces de Cana se situe au début de l'évangile de Jean. Et même dans l'évangile de Jean, c'est le premier miracle que Jésus opère. Transformer l'eau en vin au cours d'une noce. Ce n'est pas par hasard que dans l'évangile de Jean, Jésus fait un miracle pendant un mariage. Ça veut dire d'abord qu'il vient pour sauver le mariage humain. Il vient pour mettre sa présence dans les familles. Dans les familles et au cœur du mariage. Il vient aussi, ce qu'on dit en termes théologiques, sanctifier le mariage. Le mariage, c'est une réalité naturelle. Pas besoin d'être chrétien pour se marier. Le mariage entre un homme et une femme, c'est une réalité naturelle. Mais Jésus vient sanctifier le mariage, c'est-à-dire que pour ceux qui sont chrétiens, eh bien, ce mariage peut devenir un sacrement. Un sacrement, c'est-à-dire un signe de Dieu, un signe pour les hommes, un signe d'amour de Dieu pour les hommes, et un signe où Jésus agit d'une manière particulière. Alors voilà, ce mariage, comme toutes les noces de l'époque, il dure plusieurs jours. On le célébrait pendant des fêtes qui duraient plusieurs jours. Donc il fallait avoir de bons stocks de vin pour pouvoir vivre ce mariage. Et voilà que ces stocks sont épuisés avant le terme du mariage. Et la première personne à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche, probablement en regardant les serviteurs qui ont dû être un petit peu effrayés, qui ne savent pas quoi faire, c'est la Vierge Marie. Ça nous dit quelque chose de la Vierge Marie, ça nous dit que Marie, c'était une personne mystique. On ne peut pas faire plus mystique que Marie, mais ce n'est pas une mystique, je dirais, un petit peu éthérée ou dans le ciel. C'est une mystique qui est très concrète. Oui, c'est une mystique concrète. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, la mystique, ça commence dans la vaisselle. On fait la vaisselle, c'est de la mystique. Mystique, ce n'est pas uniquement de prier puis de s'élever 20 cm au-dessus du sol. Ça commence d'abord dans des choses très concrètes. Les gens qui sont charitables dans les choses concrètes, il y a quelque chose de mystique déjà dans ce qu'ils vivent, même si eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Ce qu'ils vivent, la charité concrète. Marie, elle est comme ça. Elle prie de tout son cœur, elle est très concentrée dans sa prière, certainement. Mais quand elle est avec les autres, eh bien, elle est totalement ouverte aux autres. Totalement ouverte à ce qui se passe, même au détail. En particulier, elle voit les servants ont l'air très embêtés parce qu'il n'y a plus de vin. Donc, Marie s'adresse à Jésus. Et c'est très audacieux parce que pour l'instant, Jésus n'a pas fait de miracle. Marie sait qui est Jésus. Elle sait que son fils, c'est le Fils de Dieu. que ce fils a été conçu miraculeusement en elle, pas par la semence de Joseph, mais par une manière miraculeuse. Donc elle sait qui est son fils, c'est le fils de Dieu. Mais en même temps, il n'a pas encore agi, il n'a pas encore commencé sa mission. Si Jésus commence à faire un miracle, ça veut dire que sa mission va commencer. Bien, Marie n'hésite pas, poussée par l'Esprit Saint, à s'adresser à son fils, mais elle ne lui dit pas ce qu'il doit faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Marie ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire. Elle lui dit simplement, ils n'ont pas de vin. Quand on est une femme, même vis-à-vis de son mari, comme on est plus pratique et plus concrète en général que les hommes, les femmes sont souvent plus concrètes que les hommes pour les situations à la maison, voilà, ils voient mieux les choses, en fait, que les hommes. Parfois, on peut être tenté de dire à l'homme, quand on est femme, voilà ce qu'il faut faire, tu fais ceci, tu manges, tu fais ceci, ça clac, 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 bon, c'est comme ça que ça va marcher. Puis l'homme, comme il est un homme, il va me dire non d'abord, parce qu'il a un orgueil, donc il va commencer par dire non, ça c'est comme ça que ça marche, avec les hommes. Eh bien, Marie, elle ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire, elle dit simplement, ils n'ont pas de vin. Ça veut dire qu'en fait, elle lui ouvre la porte, il fallait que, pour un homme, il faut qu'une femme lui ouvre la porte très souvent, parce que sinon il ne peut pas agir. La femme est là pour ouvrir la porte, pour permettre à l'homme d'agir. C'est ce que fait Marie avec Jésus, elle permet à Jésus d'agir. S'il n'y avait pas Marie, Jésus ne pourrait rien faire. C'est Marie qui finalement a l'initiative de tout, mais comme elle est très avisée dans l'Esprit Saint, elle va laisser le Seigneur agir, lui dit simplement, ils n'ont pas de vin. Et Jésus, eh bien, il réagit comme un homme. Il lui dit, quoi entre toi et moi? Vous voyez, quand une femme parle à un homme, si vous êtes marié, vous le savez, souvent l'homme, il commence par vous donner un conseil, quelque chose, il commence par vous dire, occupe-toi de tes oignons, quoi. Je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Eh bien, Jésus fait pareil. Quoi entre toi et moi? Ça veut dire, occupe-toi de tes oignons. C'est sympathique. Quoi entre toi et moi? Mais on pourrait croire que ça veut dire ça, mais en fait, ça ne veut pas exactement dire ça. Quoi entre toi et moi, femme? Il ne dit pas maman, il dit femme. Donc en fait, si on lit ça d'un premier regard, on a l'impression que Jésus renvoie Marie voilà, à sa place. Et si on lit un petit peu de manière mystique, on s'aperçoit qu'en fait Jésus est en train de reconnaître la place de Marie puisqu'il l'appelle femme et non pas maman. Ça veut dire que quand tu es en train de me dire ça, tu me parles comme femme. Tu es vraiment la femme par excellence. Parce que ce que tu me dis, finalement, c'est magnifique. C'est exactement ton rôle de femme de faire ça. Mais il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Souvent, les femmes, elles pensent, sont plus immédiates dans les choses qu'il faut faire maintenant. Souvent, les hommes, ils ont des plans à long terme. Donc Jésus voit le long terme. Mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire l'heure de sa croix. Mais Marie, elle est plus immédiate. Vous voyez que cette différence en femme, on la voit. Et Jésus, il a beau être Dieu, comme homme, il agit comme un homme, c'est-à-dire il réagit comme un homme, avec les limites d'un homme, si j'ose dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Marie, au lieu de dire, ben, quand même, je suis ta maman, tu pourrais me parler autrement, elle a confiance que Jésus, en fait, est en train de la mettre un peu à l'épreuve dans sa foi, et elle sait qu'au fond, le Seigneur ne peut pas refuser ce qu'on lui demande. Jamais, il ne peut jamais refuser. Quand on lui demande avec la foi, donc Marie, elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est-à-dire Jésus, elle a de dire à Marie, je ne vais rien faire. En fait, Marie a compris que Jésus, parce qu'il s'est débordé par son amour, il va faire quelque chose. Et là, on voit cette intuition de Marie qui est extraordinaire. Seulement, on a l'impression qu'elle connaît le cœur de Jésus. Son fils, elle le connaît bien. Elle le connaît très bien. Même quand il réagit négativement, en fait, elle sait ce que ça veut dire au fond. Donc on voit là vraiment une mère qui connaît très bien son fils. Et encore, il y a aussi une mère qui est bien guidée, une femme qui est immensément guidée par l'Esprit Saint. Et de fait, les serviteurs vont à Jésus, et Jésus leur dit « Remplissez d'eau les jarres destinées aux purifications. » Et il est dit qu'il y avait des jarres destinées aux purifications. Chacune des jarres faisait 2 ou 3 mesures. Ça veut dire que ces jarres contenaient en tout plus de 600 litres d'eau. Pouvaient contenir plus de 600 litres d'eau. Donc Jésus demande qu'on remplisse d'eau ces jarres. Donc les serviteurs, et ça c'est beau aussi parce que ces serviteurs, ça représente les serviteurs dans l'Église que nous sommes, ils obéissent à Marie, faites ce que dit Jésus, et ils obéissent à Jésus qui leur dit de remplir d'eau ces jarres et ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Ces jarres sont destinées aux purifications. Ça veut dire symboliquement qu'avant que Jésus fasse quelque chose, il va y avoir un temps de purification. Parfois dans la vie il y a des épreuves, et bien c'est peut-être la purification qui va permettre ensuite qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui advienne. Et Jésus leur dit ensuite, une fois qu'ils ont rempli César, eh bien maintenant puisez dedans, portez-en au maître du repas. Il ne dit pas d'ailleurs portez si l'eau du vin, il ne dit rien. Portez-en au maître du repas, et le maître du repas va découvrir que c'est plus de l'eau, que c'est du vin, et non seulement du vin, mais le meilleur vin qui soit. Or, à l'époque, quand on servait du vin, on servait d'abord le bon vin, comme ça les gens goûtent le vin, mais une fois qu'ils étaient un petit peu sous, on met moins bon, parce que là, ils ne se rendent plus compte que c'est de la piquette. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et bien là, le bon vin, il a été gardé pour la fin, parce que quand Jésus fait du vin à Cana, c'est forcément le meilleur, il ne veut pas faire de la piquette, d'accord? Dieu ne fait pas de la piquette. C'est là où on voit que Jésus est vraiment extraordinairement bon, mais il faut avoir la foi de Marie pour que ce miracle se réalise. Ce miracle où est manifesté la gloire du Seigneur, et manifesté qu'il est l'époux véritable qui vient au secours de son Église. Voilà. Alors, cette histoire est vraiment un enseignement pour nous, parce qu'on voit qu'en passant par Marie, eh bien, on peut atteindre Jésus de manière, comme disait saint Louis Marie, qui est un fort, on peut atteindre Jésus encore plus rapidement. Si on dit à Marie, va demander à Jésus, eh bien, elle va poser vraiment la demande qu'il faut, ou si on fait comme Marie, simplement, Seigneur, ton serviteur est malade, Seigneur, etc. Mais on ne lui dit pas, Seigneur, fais ceci, fais cela, premièrement, deuxièmement, troisième, quatrième, cinquième, voilà le programme que je te demande de faire. Et que là, ce n'est pas forcément la bonne manière d'agir pour que Dieu vienne à notre secours. Alors maintenant, je vais demander à Augusta de venir, parce que j'ai donné son témoignage.
Bonsoir.
Voilà, merci Augusta d'être à côté de moi. Donc elle a accepté d'être là pour garantir que mes propos sont vrais, mais elle m'a dit qu'elle risquait d'être trop émue si elle allait vous parler elle-même. Donc je vais lire son témoignage qu'on a vérifié encore juste avant la prière. Donc Augusta, tu peux avancer un petit peu Augusta, parce que tout le monde est bon, souffrait depuis plus d'un an de sa hanche. Elle avait, selon son médecin, de l'ostéoporose et une décalcification de la hanche. Et régulièrement, quand elle marchait, sa hanche se déboîtait. Et elle m'a dit qu'elle devait envoyer sa jambe en arrière pour remettre les choses en état. Au fil des mois, depuis qu'elle souffrait de sa hanche, ça augmentait, la souffrance augmentait et les déboîtements étaient de plus en plus, se réalisaient de plus en plus souvent. Augusta était très inquiète de cette situation, car elle a une mère et une fille qui sont toutes deux malades. Elle doit s'occuper d'elle, donc elle avait peur de devoir être opérée de la hanche, auquel cas elle ne pouvait plus s'occuper ni de sa mère ni de sa fille. Elle est venue pour la première fois à Saint-Nicolas-des-Champs à la prière des malades en octobre 2017. Et sur le trajet, sa hanche s'est déboîtée deux fois. Deux fois, claque la hanche, mais sa jambe, ça repartait. Quand elle était là, il y a eu deux paroles de connaissance qui l'ont concernée. Une parole de connaissance qui disait que des personnes ressentent de la chaleur dans l'assemblée, que cela signifie que Jésus est près de ces personnes. Et une autre parole qui disait qu'une personne qui souffrait de décalcification à la hanche était guérie. Alors Augusta, quand elle a entendu ces paroles, elle a pensé que ça pouvait la concerner, parce que d'une part, elle a ressenti en elle une vague de chaleur venant de la gauche et allant sur la droite et qui est passée sur elle. Et puis, elle avait elle-même ce problème de hanche, comme la parole le disait. Et donc, en sortant de l'église, elle a constaté qu'elle n'avait plus mal du tout. Et depuis, elle n'a plus du tout mal, et sa hanche ne s'est plus jamais déboîtée. Alors, Augusta rend grâce à Dieu de tout son cœur, parce qu'elle n'imaginait pas que ça pouvait lui arriver d'être guérie comme ça, par Dieu directement. D'ailleurs, elle m'a dit que pendant la prière, elle priait surtout pour sa fille et sa maman. Elle n'a même pas pensé à elle-même. Et que le fait que Dieu la guérisse d'un coup comme ça, ça l'a complètement surpris, parce qu'elle dit « les guérisons c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Il y a dans la santé, c'est la même chose. « Guérison pour les autres, c'est jamais pour moi ». Donc elle rend grâce au Seigneur.
Merci Seigneur, grâce à toi Seigneur.
Voilà, merci beaucoup Augusta pour votre témoignage. Alors, quelques petits autres témoignages. Donc Arnaud était venu à la prière des malades, et la deuxième fois qu'il est venu, il a ressenti une odeur de parfum, comme une parole annonçait, et que cette odeur du parfum était en lien avec l'amour de la Vierge Marie. Et Arnaud prie beaucoup la Vierge Marie. Donc en rentrant chez lui le soir, il a pleuré comme un enfant, et il nous a dit qu'il pleurait de joie pour amour et par amour pour la Vierge Marie. Voilà. La Vierge Marie lui a donné ce signe du parfum pour lui signifier qu'elle l'aimait, et ça a encore plus augmenté l'amour d'Arnaud pour la Vierge Marie qu'il aime déjà beaucoup. Jean-Baptiste est venu prier à la prière des malades pour son papa qui était tombé dans le coma un mois et demi plus tôt sans que les médecins comprennent pourquoi. Son papa est sorti du coma quelques jours après qu'il soit venu prier ici. Daniel rend grâce à Dieu parce qu'il avait un sifflement dans les oreilles, et en sortant de la prière des malades, ce sifflement a complètement disparu, il a été guéri. Une parole plus, une guérison plus d'ordre psychologique, en tout cas pour la première. Suite à une parole de connaissance, le 15 novembre 2018, qui disait qu'une personne très timide était pacifiée. Laetitia, qui est elle-même très timide et très sensible, s'est sentie beaucoup mieux. Et depuis, elle arrive beaucoup mieux à communiquer. Elle avait beaucoup de mal à communiquer avec les autres, du fait de sa timidité, sa sensibilité extrême. Et en juin 2017, à la prière des malades, elle a aussi été guérie de maux de tête récurrents suite à une parole de connaissance qui annonçait la guérison de maux de tête. Voilà, vous voyez que le Seigneur fait des merveilles. Pour ce soir, je vais arrêter les témoignages puisque Jésus va venir parmi nous pour venir à notre secours. Alors n'oublions pas que nous prions les uns pour les autres. N'oubliez pas de prier pour votre voisin. Nous allons maintenant accueillir Jésus qui vient dans le Saint-Sacrement. Ce pain qui a été consacré à la messe, qui est devenu son corps.